Bonjour à chacune et à chacun, bonjour à nouveau. Je vous propose ce matin de regarder deux versets habituels, deux versets que nous connaissons certainement très bien, et de vous dire quelques mots par rapport à ces versets. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 8 et 9, je pense que certains pourraient peut-être même me les dire par cœur, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible nous enseigne dans ce verset, mais aussi dans bien d'autres, qu'aucun être humain ne peut être déclaré juste, qu'aucun être humain ne peut être sauvé par les œuvres. Dans un autre texte parallèle, Paul écrivait aux Romains et leur disait ces mots: « Personne ne sera déclaré juste devant Dieu par ses actes, par ses œuvres. » C'est Romains 3, verset 20. Pourtant, hier, comme aujourd'hui, les hommes tentent d'acquérir le salut par toutes sortes d'actes bons, par toutes sortes d'actes pieux, par la bonté, par la compassion, par la maîtrise de soi, par l'obéissance à la loi, par la prière, par la piété, par la lecture de la Bible, par toutes sortes de chemins humains. Et la Bible nous dit que ces chemins, ce sont autant de tours de Babel, autant d'échafaudages qui s'effondreront un jour ou l'autre. Personne ne sera déclaré juste devant Dieu par ses actes. Écrivant aux Galates, l'apôtre Paul disait: tous ceux et qui s'attachent aux actes, tous ceux qui s'attachent aux œuvres sont et restent sous la malédiction. Il est évident, il est certain, qu'aucun être humain ne peut satisfaire pleinement aux exigences de Dieu. Ces exigences de Dieu sont données à l'homme pour régler leur vie spirituelle, leur vie familiale, leur vie sociale. Et dans le Nouveau Testament, ces exigences de Dieu sont résumées en deux commandements. Le premier: aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Lorsque nous regardons ces deux commandements, ces deux paroles, ces exigences de l'Écriture, nous sommes dans l'obligation de plaider coupable. En tout cas, pour ma part, je ne peux faire autrement en regardant ces deux paroles que de dire: coupable, coupable devant Dieu, coupable devant les hommes. Qui aime Dieu de toute sa force, de toute son âme, qui aime Dieu constamment, de toute sa force, de toute son âme. Et qui aime son prochain comme lui-même. Il est évident que si nous sommes justes, nous ne pouvons que dire, en regardant ces exigences de Dieu, « Je suis coupable » et comme l'Écriture me le dit, « Je suis condamné ». Un jour, l'apôtre Paul écrivait aux Romains pour leur parler de ces choses et il leur a dit des paroles que nous connaissons bien mais que j'aimerais redire avec force. Il leur disait « Il n'y a pas un juste, pas même un seul ». Ou encore, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, de la communion avec Dieu. Et cela est donc la réalité pour tous les hommes, quels qu'ils soient, là où ils se trouvent aujourd'hui. Sans exception. Absolument sans exception, les hommes sont perdus et les hommes sont condamnés, nous dit l'Écriture. Les disciples, à l'époque où Jésus était sur la terre, ont été mis devant cette évidence. Un jour, Jésus s'entretient avec un jeune homme riche. Et les disciples écoutent cet échange entre Jésus et ce jeune homme riche. Et à la fin de l'échange, les disciples regardent le Christ Jésus et l'interpellent. On trouve cette histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Et au verset 25, nous découvrons que les disciples interpelle donc Jésus en lui disant ces mots, « Qui peut donc être sauvé ?» Qui peut donc être sauvé ? Au regard de ces exigences, il est évident qu'aucun homme, qu'aucune femme ne peut être sauvé. Alors, nous dit le texte, Jésus regarde ses disciples. Il leur donne la réponse, la solution. Il leur dit aux hommes, à vous et à moi, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et quand nous citons ce texte, bien souvent, il faut nous rappeler le contexte, impossible pour l'homme de se sauver par lui-même, de se sauver par ses propres efforts, de se sauver par ses actes. Mais Dieu offre gratuitement la possibilité du salut à tous les hommes, à vous et à moi. Aux hommes de tous les temps, aux hommes de toutes les nations. Écrivant à son fils spirituel, Timothée, l'apôtre Paul disait ces mots, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. » Et dans ce « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés », il y a toi, ce matin, il y a chacun d'entre nous. Personne n'est en dehors de ce plan de Dieu pour les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et vous pouvez y mettre votre nom. Dans ce but du salut, Dieu a miséricordieusement tracé un chemin, et un seul chemin par lequel l'homme peut être sauvé. Ce chemin est révélé dans l'Évangile, ce chemin est affirmé dans les Épîtres, ce chemin, c'est le chemin de la grâce dont le texte biblique de ce matin nous parle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écrivant également aux Romains, l'apôtre est là à affirmer cette réalité en disant « Des hommes, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Romains 3, 24. L'apôtre Paul fait différents voyages missionnaires. Il arrive au bout de ce travail que Dieu lui a demandé et il va rencontrer, avant d'aller vers le temps de la condamnation, le temps de l'emprisonnement, il va rencontrer les anciens de l'église d'Éphèse. On découvre cela dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 24. Et à ce moment-là, l'apôtre va faire une affirmation solennelle à ces chrétiens de ce temps. Il leur dit « J'ai reçu du Seigneur Jésus le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » D'annoncer qu'il y a un chemin et un seul pour le salut des hommes, c'est le chemin de la grâce. C'est cette même mission qui a été confiée aux disciples d'hier et aux disciples d'aujourd'hui, lorsque Jésus s'apprête à quitter cette terre pour monter au ciel. Il dit ces mots, « Allez, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Marc 16, 15, 16. Et quelle est donc cette bonne nouvelle? Et c'est que le chemin a été ouvert, le chemin de la grâce pour vous et pour moi. Dans le livre des Actes, un verset bien connu, Jésus. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais elle est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom et qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le chemin de la grâce, c'est un homme, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Nous chantons parfois un cantique que l'on connaît mal d'ailleurs et qui s'appelle « Le ciel était voilé ». Et dans ce cantique, l'auteur imagine un homme, vous, moi, un homme qui est sur un chemin et qui est en recherche et qui recherche une porte. En vain, il va et vient à la recherche de cette porte, il ne la trouve pas. Il est désespéré. Parce qu'il cherche, mais rien, rien ne se montre à son regard. En fait, consciemment ou inconsciemment, tous les hommes, depuis le début de leur existence, sont à la recherche de cette porte. Sur le chemin de votre vie, vous avez peut-être été à la recherche de cette porte et vous l'avez peut-être trouvée. Mais peut-être êtes-vous aujourd'hui des jeunes ou des moins jeunes qui, sur le chemin de votre vie, êtes à la recherche de cette porte. De cette porte et qui nous amène sur le chemin du salut, de la vie éternelle, sur le chemin du bonheur. Notre homme est à la recherche, et alors qu'il est désespéré, tout à coup, il voit une porte. Et il s'approche, et alors qu'il s'approche, que découvre-t-il ? Il voit que la porte est ouverte. Et alors, notre homme s'approche encore, et quand il est là tout près, que découvre-t-il ? Qu'il y a à la porte quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jésus, qui dit « c'est moi la porte, c'est moi la grâce, c'est moi que tu recherchais, et en moi, il y a le pardon et la vie. » À nous tous qui cherchons, il y a dans l'Écriture cette affirmation que Jésus est la porte et que quand un homme entre par cette porte-là, il a la vie éternelle, la vie à jamais. Il a enfin la grâce, il a la vie. Je voudrais évoquer cette grâce dont nous parle l'Écriture. Je voudrais maintenant faire différentes réflexions sur ce thème-là. Tout d'abord, vous dire qu'autour de nous, il y a toutes sortes d'hommes, il y a toutes sortes de religions. Et ces hommes, ces religions, sont à la recherche de la porte, de la grâce, de la vie. Pour les religions, ils disent le salut, c'est par les œuvres. Le salut, c'est par les actes. Le salut, il faut faire ceci et cela. Mais les chrétiens proclament, et c'est notre message fondamental, notre message central, le pardon des péchés est un pardon gratuit et qui nous est accordé par son nom, par le nom du Seigneur Jésus, à quiconque met en lui sa confiance, sa foi. Du point de vue de l'homme, la grâce est une nécessité, car sans la grâce, il est impossible pour l'homme d'être sauvé. Et nous reviendrons encore tout à l'heure sur ce point. Mais du point de vue de Dieu, la grâce est un acte libre, est un acte de son cœur, est un acte d'amour, un acte de pure bonté, de pure compassion envers les hommes que nous sommes. Dans l'évangile de Jean, nous avons cela qui est affirmé avec ces mots: Dieu a tant aimé les hommes. Dieu nous a regardés et nous a tant aimés. Il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Voilà donc la grâce, un geste d'amour de la part du Seigneur. Dans l'Écriture, cette réalité de la grâce, de la faveur imméritée de Dieu, de cette bienveillante disposition de Dieu par laquelle il est conduit non à condamner mais à pardonner, à sauver l'homme pécheur, cette disposition nous est révélée avec toutes sortes de mots. Comme je viens de le dire avec ce texte de Jean 3,16, la grâce de Dieu, c'est le geste de son cœur. C'est un geste d'amour. Dans d'autres textes, il est dit que c'est un geste de miséricorde. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice, des actes que nous aurions pu faire, mais selon sa miséricorde. Ou encore de nous dire dans Tite 3 que la bonté de Dieu, l'immense bonté de Dieu a été manifestée en la personne du Christ Jésus. Tous ces textes nous disent que le croyant doit son salut uniquement à la bienveillance de Dieu. Mais alors, me direz-vous, mais alors, quelle est la place de la foi? Ah, je crois. Oui, je crois que la foi ne justifie ni ne sauve aucun homme. Que la foi en tant que qualité, en tant que bonne œuvre, que la foi en tant que don de Dieu mis en nous, que la foi ne sauve pas en elle-même. Il y a autour de nous quantité d'hommes et de femmes qui pourraient dire « j'ai la foi ». La foi, dans le texte biblique, la vraie foi est uniquement le moyen par lequel l'âme s'approprie la grâce de Dieu, s'approprie l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons lu tout à l'heure, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. N'est-ce pas le texte est là à affirmer que le salut, c'est Christ, c'est une personne, c'est son œuvre à la croix, et que la foi est un moyen qui se saisit du salut. On pourrait dire en fait que la foi ne justifie qu'en vertu de son objet, qui est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. C'est pourquoi il est dit « à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. » Et le texte nous dit bien celui qui justifie. Et celui qui justifie, c'est bien une personne, c'est le Christ Jésus. Alors précisons encore que la grâce est grâce en Jésus-Christ. Alors vous dites peut-être, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Et qu'est-ce qu'il veut entendre par ces mots? Eh bien, simplement et fortement, que la grâce n'est pas une simple décision, une sorte de décision souveraine de Dieu, que Dieu aurait prise il y a bien longtemps en arrière, dans l'éternité. La grâce divine est fondée sur l'œuvre expiatoire du Christ. Je crois que l'Écriture ne laisse aucune place à une grâce qui n'impliquerait pas le paiement de la rançon du péché. Ainsi, nous pourrions dire que la grâce divine est une grâce acquise, une grâce acquise par le Christ médiateur, par le Christ et qui se livre à la croix. La grâce est dans le Christ, à cause du Christ, pour les hommes de tous les temps. Il n'est pas question dans l'Écriture d'une grâce quelconque, d'un pardon quelconque, qui serait accordé à tel ou tel en dehors de la croix et du prix payé à la croix par le Fils de Dieu. En d'autres termes, selon l'Écriture, Dieu fait grâce à une humanité pécheresse, à une humanité condamnée, que parce que son Fils a payé la rançon de tous les pécheurs. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 24, il est dit ceci: « Vous êtes justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et donc, le texte est là à nous dire très fort et très clair que l'homme est justifié par la grâce, par cette bienveillance de Dieu, mais cette bienveillance de Dieu qui regarde les mains percées, les pieds percés, le côté percé de son Fils, le sang versé de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Par le moyen de la rédemption, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés. On pourrait encore redire avec force que la grâce n'exclut pas la justice de Dieu. Bien au contraire, elle suppose, elle implique que toutes les exigences de Dieu seront vécues. Il fallait donc que le prix soit payé. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour que la grâce devienne efficace pour toi et pour moi. On pourrait encore ajouter que bien que la grâce nous soit donnée gratuitement, bien qu'elle ne nous coûte rien, elle a beaucoup coûté à quelqu'un d'autre, elle a été acquise à un prix incalculable, au prix du Fils de Dieu lui-même. La grâce, c'est donc un homme, c'est donc le Fils de Dieu qui paie sur la croix. C'est cette bienveillance de Dieu, c'est cet amour, cette miséricorde, tout ce qui est infiniment grand, mais qui trouve sa réalisation dans ce que le Christ a fait. C'est pourquoi à la porte, il y a le Fils qui est là et qui te dit et qui me dit « Je t'attends, c'est en moi et en moi seul et qui a la vie. Je voudrais rajouter un dernier point, à savoir que cette grâce ou cette faveur imméritée, que cet amour éternel de Dieu, d'après les textes bibliques, s'étend à tous les hommes. Christ est le sauveur du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous pouvons, en regardant les textes bibliques, dire que le désir profond du cœur de Dieu, c'est le salut de toute l'humanité, de tous les hommes. Nous pourrions même dire que le salut, que le prix payé a été même pour ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Le prix a été payé pour tous les hommes, et quels qu'ils soient. Mais si les hommes ne prennent pas à pleine main ce cadeau de la grâce et ce cadeau du pardon, si un homme est là à regarder la porte, mais ne la franchit pas, ne franchit pas la porte de la grâce, alors il est dans la condamnation. Le salut a été acquis, même pour ceux qui rejettent la grâce. Mais ces hommes sont perdus à cause de leur incrédulité et à cause de leur refus de franchir cette porte, de passer par le seul chemin qui donne la vie. Je voudrais à chacun dire et redire et qu'il y a une porte à franchir et que si vous ne l'avez pas franchie, c'est aujourd'hui l'heure. Quant à ceux qui ont déjà franchi cette porte, qui se sont emparés de la grâce, du pardon, de la miséricorde offerts gratuitement aux hommes, eh bien, cette grâce doit nous faire éprouver un sentiment de réconfort, un sentiment de sécurité basé sur ces promesses de l'Écriture, sur ces paroles certaines de l'Écriture. Quels que soient les moments de nos vies, faciles ou difficiles, certains d'être entrés par la porte de la vie. Mais lorsqu'un homme a saisi la grâce, ou bien qu'il a été saisi par la grâce, je crois que la vie doit ensuite suivre, les bonnes œuvres doivent suivre. La vie doit démontrer que nous avons effectivement saisi à pleine main celui qui est la grâce. Et quand nous vivons pour celui qui est la grâce, qui nous a fait grâce, alors cette vie nous amène encore plus loin dans cette sécurité que le Seigneur a tout accompli et que son œuvre est toute suffisante pour moi, pour aujourd'hui et pour demain.
Je vous propose de prendre nos cantiques au 379, puisque ce cantique, ce chant a été évoqué. message pour en faire une petite reprise. C'est comme des fois à la télévision, et on vous montre un épisode et puis après on vous remonte quelques images. Aucun homme ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Mais si à l'homme cela est impossible, à Dieu tout est possible. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a un chemin pour cette grâce. Ce chemin, c'est un moyen, c'est la rédemption par Jésus-Christ. Et cette grâce, elle est proclamée par les disciples. Aucun autre chemin n'est possible. Et cette porte du salut, aujourd'hui, est ouverte. Oui, le croyant doit son salut à la bienveillance de Dieu. Ce n'est pas la foi qui sauve en elle-même. La foi, ce n'est qu'un moyen. L'acteur, c'est la grâce. Et si je suis sauvé, c'est parce que Jésus-Christ a été sacrifié. La grâce, elle passe aussi par ce paiement, par cette rédemption qu'a accompli Jésus-Christ. De telle manière que Jésus-Christ est présenté là devant nous avec la grâce et la justice. Le prix, en quelque sorte, est prépayé, mais il faut que moi, maintenant, je l'endosse, que je le prenne, que je le saisisse. Si je refuse cette grâce, alors je suis perdu. Mais c'est l'heure, aujourd'hui, pour celui qui n'a pas saisi cette grâce, de la saisir, pour celui qui l'a déjà saisie, de se fortifier en elle. Et alors, les œuvres qui ont été préparées pourront être accomplies dans notre vie par Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai retenu, moi, du message. J'espère que chacun a retenu quelque chose qui lui parle. En tout cas, en reprenant les éléments de ce message et au moment de présenter la scène, je voulais dire ô combien ce message nous a conduits devant ce signe que nous célébrons maintenant. Alors je demandais à quatre frères de s'approcher, peut-être à Yves Guast, hein, Bernard Briand, Serge Santiago, et puis Daniel Connaisson. Voilà, et pendant que nos frères préparent le repas, je voudrais dire encore qu'il y a deux manières d'être hypocrite. La première manière d'être hypocrite, c'est de montrer dans notre vie des signes qui sonneraient faux avec ce que nous avons dans le cœur. La première manière d'être hypocrite, c'est de faire comme si. C'est de montrer aux hommes et à notre entourage une apparence lisse, sympathique, et que, au fond, notre cœur, ne se vivent pas les choses ainsi. Mais il y a une deuxième manière d'être hypocrite. La deuxième manière d'être hypocrite, c'est d'affirmer sa liberté. C'est de, rejetant cette première forme d'hypocrisie, de vouloir assumer dans notre vie une grande liberté. Mais au fond, cela peut conduire à montrer par les signes de notre vie, à les montrer de manière visible et en témoignage en quelque sorte, qu'au fond, nous délaissons ce que le Christ nous enseigne. Une autre manière d'être hypocrite, c'est d'affirmer sa liberté et de ne retenir du message du Christ que quelques éléments sympathiques, mais au fond, de témoigner que nous n'avons pas soumis notre vie à l'exigence de Dieu. Alors, comme quand un enfant, on lui apprend, avant de traverser la route, de regarder à droite et à gauche, je crois qu'au moment où nous nous approchons de la scène, de la table sainte, nous devons de la même manière regarder les deux sens de l'hypocrisie. Est-ce que ma vie, je la présente aux autres de manière très juste, très agréable, très parfaite, mais qu'au fond, dans mon cœur, il n'y a pas la puissance de Christ? Et puis, au contraire, est-ce que j'affirme que je suis libre et que de toute façon, je ne suis pas un hypocrite, mais qu'au fond, dans ma vie, il n'y a pas la réalité d'une vie avec le Seigneur. Alors, si dans ce deuxième élan, je disais, moi, après examen, je ne suis pas digne de participer au repas du Seigneur, comme on nous dit chaque dimanche, que chacun s'examine, mais qu'est-ce qu'il suit derrière? Que chacun s'examine afin qu'il participe. parce que, comme il a été affirmé dans le message, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre grâce que celle qui passe par Jésus-Christ. Et en participant à cette scène, nous n'affirmons pas que nous sommes des êtres parfaits. Nous ne sommes pas à dire que par la manière dont nous conduisons notre vie, nous avons acquis le salut. Bien sûr que non. Nous disons que Jésus-Christ nous a acquis le salut. Et que nous, la foi que nous avons, c'est simplement cette possibilité que nous ouvrons à Dieu pour qu'il intervienne dans notre vie, pour qu'il vienne réaliser pleinement ce qu'il a déjà accompli sur la croix. Voilà. Donc, j'ai demandé donc à Serge de prier et puis nous partageons ce repas. La justice de Dieu, c'est le corps du Christ brisé sur la croix. La grâce de Dieu, c'est ce sang qui a coulé et qui me dit le pardon de Dieu. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, que tout homme soit lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme.